BW. Vue d'Allemagne.
Friedrich Ebert, le nom ne vous rappelle peut-être pas grand-chose, mais si je vous dis Fondation Friedrich Ebert, on aura certainement avancé un tout petit peu, peut-être même beaucoup. La plus vieille fondation politique allemande dispose en Afrique d'une vingtaine de bureaux. Fondée en 1925, elle doit son nom à Friedrich Ebert. Cette semaine marque les 100 ans de sa disparition. En seconde partie, grand reportage à Damas à la rencontre des Syriens qui rentrent au pays après des années d'exil et surtout après la chute de Bachar al-Assad. Au micro, Relu Koubakin, willkommen, bienvenue.
Il est aujourd'hui considéré à juste titre comme un précurseur de la démocratie qui a pris ses responsabilités alors que l'Allemagne se trouvait dans une situation complexe.
Voilà comment Peter Boyle de la Fondation Friedrich Ebert résume la vie politique de l'homme. Alors pour comprendre comment Friedrich Ebert, mort le 28 février 1925, est encore considéré aujourd'hui comme le précurseur de la démocratie allemande, eh bien, il faut remonter à fin 1918. La Première Guerre mondiale s'est soldée par la défaite pour l'Empire allemand. Des soldats et des civils traumatisés et marqués par la guerre luttent pour trouver leur place dans la société. C'est à ce moment-là que le fils de couturier, né le 4 février 1871 va jouer un rôle décisif dans cette période chaotique. Friedrich Ebert, bourrelier de formation, puis hôtelier à Brême dans le nord de l'Allemagne, sera surtout président du Parti social-démocrate dans lequel il fait son entrée en 1889. Walter Mühlhausen est le biographe de Friedrich Ebert.
Tout d'abord, il était un homme de compromis, une nouveauté dans la politique allemande de l'époque. Lorsque les partis ont commencé à assumer des responsabilités gouvernementales, c'est lui qui a toujours insisté sur le fait qu'il fallait tout de même trouver un accord pour servir la cause. Il a toujours prôné cela en tant que président du Parti social-démocrate, discuter en interne, mais se présenter ensemble à l'extérieur et défendre le compromis.
Friedrich Ebert est lui aussi marqué par la Première Guerre mondiale. Sur ses 5 enfants, 2 fils sont morts au combat. Mais alors qu'il soutient une transition de la monarchie autoritaire vers une république, le gouvernement provisoire dont il est l'un des coprésidents à partir de novembre 1918 doit d'abord stabiliser un pays économiquement exsangue, d'autant qu'une partie de la population n'accepte pas la défaite de la guerre et s'accroche à un passé prétendument glorieux. Friedrich Ebert était la bonne personne pour gérer ce changement, estime l'historien Peter Boyle. DW. Mais tout ne se passe pourtant toujours pas comme prévu. Friedrich Ebert s'attire la colère de la gauche radicale qui lui reproche la trahison du mouvement ouvrier. Car pour stabiliser la jeune démocratie, il coopère avec les anciennes élites de l'Empire. Le 5 janvier 1919, les communistes radicaux, les socialistes et la Ligue spartakiste appellent au renversement du gouvernement. Une guerre civile couvre en Allemagne quelques jours avant les premières élections démocratiques. Des affrontements sanglants ont lieu pendant une semaine. Les insurgés seront réprimés de manière brutale. Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, fondateurs du Parti communiste allemand, sont assassinés par des soldats peu après la répression de l'insurrection. Le 19 janvier 1919, 2 mois seulement après la fin de la guerre, les premières élections de la Nouvelle République ont lieu. Des millions de femmes peuvent voter pour la première fois. La liberté d'expression et de la presse règne. Friedrich Ebert avait déjà évoqué ce tournant historique dans l'histoire de l'Allemagne 2 semaines plus tôt. C'était au cours de son discours à l'Assemblée nationale à Weimar, dans l'est du pays. Ses propos sont lus par mon collègue Bob Barry.
Le peuple allemand est libre, reste libre et se gouverne lui-même à l'avenir. Cette liberté est la seule consolation qui reste au peuple allemand, le seul point d'appui qui lui permette de s'extirper du bourbier de la guerre et de la défaite.
Friedrich Ebert devient à la suite des élections le premier président allemand démocratiquement élu. Mais le président de la République de Weimar doit faire face à des tentatives de putsch. Il reste toutefois le garant de la sécurité, de la liberté et de l'ordre. Au cours de ces 6 années de présidence, 9 chanceliers et 12 gouvernements se succèdent. Mais Friedrich Ebert maintient la cohésion de l'État et la justice sociale, ce que confirme Peter Boyle de la Fondation Friedrich Ebert.
L'accès équitable à l'éducation, condition préalable à l'égalité des chances dans la société, est particulièrement lié au nom de Friedrich Ebert.
Il suggère la création d'une fondation qui permettrait aux enfants d'ouvriers de s'élever socialement grâce à l'éducation. Aujourd'hui, la fondation qui porte son nom est active dans plus de 100 pays dans le monde. La mort de Friedrich Ebert à 54 ans laisse place à une république qui vacille jusqu'à ce qu'en 1933, un homme s'empare du pouvoir. Adolf Hitler détruira l'héritage de Friedrich Ebert. 100 ans après la disparition de Friedrich Ebert, l'Allemagne est une démocratie consolidée, cela depuis des décennies. Mais le ton du débat politique s'est durci. Le parti d'extrême droite AfD est devenu la deuxième force politique en Allemagne à l'issue des dernières législatives anticipées du 23 février. Hélène Mia Delacroix est professeure d'université de civilisation de l'Allemagne contemporaine à Sorbonne Université. Elle est interrogée par Marco Voltaire.
L'AfD est un parti qui s'est construit en rejet des valeurs démocratiques sur lesquelles est fondée l'Allemagne depuis 1949. C'est-à-dire le pluralisme, le respect des opinions d'autrui, l'acceptation de la différence, l'égalité entre les hommes et les femmes, le respect des droits de l'homme, l'accueil des étrangers, l'égalité des hommes, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, leur religion.
Walter Mühlhausen, ancien responsable du mémorial qui porte le nom de Friedrich Ebert, estime que la démocratie est vulnérable.
C'est pourquoi tous les démocrates doivent défendre ce système maintenant, aujourd'hui et à l'avenir. Car lorsque la démocratie compte trop peu de démocrates, elle court le risque d'être ensuite jetée aux oubliettes.
Merci à Ralph Bozen pour son énorme contribution à la réalisation de ce sujet. Vous écoutez le magazine Vue d'Allemagne, place à présent à la seconde partie. Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, une grande partie des Syriens en exil hésitent encore à rentrer. En cause, le manque de logements, de services de base, la situation sécuritaire sur place et les difficultés économiques, notamment le manque d'emploi. De nombreux Syriens évoquent aussi la peur de se voir retirer leur statut de réfugié dans leur pays d'accueil. Pourtant, selon l'ONU, plus de 280 000 Syriens de l'étranger sont déjà retournés en Syrie depuis le 8 décembre dernier, soit la date de la chute de Bachar al-Assad. Marie Tignon est partie à la rencontre de ces Syriens de retour après des années d'exil et prêt à se mobiliser au sein de la société civile pour la reconstruction d'une nouvelle Syrie libre.
Dans le célèbre café Raouda, en plein cœur de la capitale syrienne, l'ambiance est joyeuse et l'heure est aux retrouvailles. Des drapeaux verts de la révolution sont suspendus au plafond. Le tube qui fait un carton depuis la chute du régime d'Assad, « Garde la tête haute, tu es un Syrien libre », résonne dans les enceintes. Des gens fument le narguilé pendant que d'autres se font d'intenses accolades. Ce café est en quelque sorte à l'image de la société civile syrienne en ébullition, où pour la première fois depuis tant d'années, les gens se retrouvent dans un lieu public pour parler ouvertement de politique.
Des crimes ont été commis et doivent être jugés, ce qui soulève la question du pardon. Mais est-ce que le pardon peut s'inscrire dans le contexte syrien ? Des millions de Syriens ont été terriblement affectés, avec plus d'un demi-million de victimes et plus de 7 millions d'exilés à l'étranger.
L'homme qui s'exprime au micro est Yassine Alaj Saleh, un écrivain et dissident politique syrien qui a connu la prison, la torture et l'enlèvement de sa femme portée disparue depuis 2013. Il est aujourd'hui de retour au pays après 11 années d'exil en Turquie et en Allemagne. Près d'une centaine de personnes, aussi bien de Damas que de la diaspora, sont venues l'écouter lors d'une conférence sur la justice et la réconciliation donnée par l'initiative citoyenne Nos Commencements. Cham Al-Halak, 24 ans, fait partie de l'organisation. Depuis 2018, elle poursuit des études en sciences politiques et droits humains à Paris.
Franchement, je pensais que jamais de ma vie je pourrais écouter cette conférence à Damas. En fait, ce qui se passe en ce moment avec la société civile, c'est qu'ils sont en train de reprendre leur espace, de politiser les gens, de mettre en place une liberté d'expression, une liberté de se réunir, et ce qui n'était pas le cas avant. Il y a beaucoup de Syriens qui sont revenus de, de l'Europe pour construire quelque chose. Parce que en fait, cet espace-là, c'est les racines pour nous pour pouvoir par la suite mettre en place ce qu'on pourra appeler une démocratie.
Depuis la chute du régime d'Assad, des événements pour la reconstruction d'une nouvelle Syrie unifiée se multiplient à travers le pays. Chacun tente de contribuer à faire quelque chose de positif pour la Syrie. C'est aussi le cas de Karam Alindi, 33 ans, qui, dès la fin de la conférence, se faufile dans un espace moins bruyant du café pour mener une interview avec une ancienne détenue. Après 10 années passées en Belgique, ce journaliste et humanitaire est revenu à Damas pour accomplir son devoir, dit-il, de montrer au monde les atrocités commises par le régime d'Assad.
Avant, ce n'était pas à nous de construire le pays, parce que le pays était volé par Assad. Et maintenant, non, ça, c'est à nous de décider. J'ai quitté le pays à cause de quelque chose de politique. Alors je ne vais pas laisser tout à l'HTS ou n'importe qui va conduire le bateau de la Syrie. Pour cette raison, non, je dois rentrer ici et je dois travailler dans la politique. Je dois aussi partager toutes les expériences que j'ai eues et de donner à mon pays. Quoi. Cet changement radical, ça a changé la manière de vie pour moi. Aussi le point de vue sur le futur.
Presque tous les exilés syriens avaient été forcés de faire le deuil de leur pays et construire une nouvelle vie à l'étranger. Désormais, ils peuvent enfin imaginer un avenir en Syrie. Même si cela provoque en eux de nombreux chamboulements et incertitudes quant au futur, pour Karam, cette libération de la Syrie lui permet enfin de se projeter.
Avant, je n'étais pas capable de faire un planning même pour un an. Et ça, c'était vraiment difficile. Quand tu fais l'interview avec ONG, il te dit « Où tu trouves toi-même dans 5 ans ?» Je dis « Mais je ne suis pas capable même de me voir dans un an. » Maintenant, je peux dire « Oui, dans 5 ans, je serai dans la Free Syria. »
Les Syriens, conscients des trop nombreux sacrifices qu'ils ont dû faire pour obtenir cette liberté, veulent à présent tout mettre en œuvre pour garantir un avenir meilleur dans lequel la justice et la réconciliation auront certainement une place déterminante. Marie Thion, à Damas, pour la Deutsche Welle.
C'est la fin de cette édition de Vue d'Allemagne. À écouter et réécouter sur le site internet, les réseaux sociaux et sur la plateforme de podcast de votre choix. La semaine prochaine, c'est Anne Le Touzé à ce micro. Tchuss!